malgré que le diaporama soit le diaporama officiel de l'exposition, je vais plutôt essayer de vous présenter de manière peut-être un petit peu décousue, mais on pourra répondre à des questions un peu après. Si vous voulez, les coulisses de l'exposition et la manière dont on a voulu construire cette expo. C'est pour ça que voilà, les images vont défiler un petit peu de manière aléatoire pour donner un aperçu à ceux qui ne l'ont pas encore vu de ce que l'expo présente. Mais ce qui m'intéressait avant tout, c'est de vous donner un petit peu les données qui ne figurent pas dans le catalogue et un petit peu le contexte dans lequel on a construit ce parcours d'exposition. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte, on est en 2013, et à cette époque-là, donc la première exposition des commissaires de l'exposition de tatouage vient d'avoir lieu à la Halle Saint-Pierre. C'était une exposition qui s'appelait Hey, donc qui présentait entre autres des œuvres réalisées par des artistes tatoueurs, mais également aussi de l'art underground américain et quelques pièces aussi de ce qu'on pourrait appeler de l'art brut. Donc, à cette époque-là, un projet d'exposition sur, si je me souviens bien, la sexualité venait d'être annulé au musée du Quai Branly. Et le président du musée, Stéphane Martin, qui est un grand passionné de tatouage, avait ce projet depuis un petit moment dans les tiroirs, qui, de faire une exposition sur la question du tatouage. L'exposition précédente, dont à la Halle Saint-Pierre, tombé un petit peu en quelque sorte au bon moment, puisque il était exposé des bras, des moulages de bras tatoués, qui était en quelque sorte une façon vraiment originale de présenter le tatouage, puisque dans les expositions précédentes, les rares expositions précédentes qui avaient été faites sur le tatouage, de même que dans les choses plus confidentielles dans des galeries, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vraiment vu, hein, cette façon de présenter le tatouage en trois dimensions, afin de coller au plus près du rendu que ça peut donner sur une peau. Donc on s'est réunis avec Stéphane Martin, Anne et Julien et également Pascal Bagot, qui est quelqu'un qui a pas mal écrit dans Tatouage Magazine, mais qui est à côté de sa spécialiste du tatouage japonais, pour justement se départager les différentes tâches qui allaient être les nôtres dans le cadre de la construction du parcours. Donc les discussions, elles ont d'abord porté sur qu'est-ce qu'on ne voulait pas faire comme genre d'exposition. Et il était clair, en tout cas pour Anne et Julien et pour Stéphane Martin, qu'il n'était pas question de faire une exposition ethnographique, c'est-à-dire de faire un petit peu comme ce qui avait été fait en 2004 au Musée des Arts Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles, une exposition qui c'était en quelque sorte, la critique qu'on faisait à cette exposition, c'était qu'elle s'était bornée à présenter des isolats culturels de pratiques de tatouage, et de sorte qu'on avait un petit peu une exposition un peu très classique en quelque sorte, mais aussi très culturaliste. Et étant nous-mêmes très impliqués, enfin très connaisseurs des milieux du tatouage contemporain, on voulait montrer une exposition qui parle du tatouage contemporain. Alors, la grande contrainte, c'est que étant accueilli dans un musée ethnographique, il fallait trouver un moyen de faire rentrer aussi des objets des collections, et pas uniquement présenter des œuvres d'artistes tatoueurs. Donc on a construit cette exposition en quelque sorte de manière chronologique, mais pas évolutionniste, en essayant de montrer comment le tatouage contemporain est entièrement dépendant d'emprunts et d'échanges multiples entre les tatoueurs euro-américains et un certain nombre de tatoueurs au Japon ou encore en Océanie. C'est la raison pour laquelle, notamment, toutes les régions du monde ne sont pas vraiment représentées dans cette exposition. On a essayé de plutôt se focaliser sur les représentants actuels du tatouage et leur lien avec par exemple, leur île d'origine ou l'identité dont ils se revendiquent. Alors, normalement, ce diaporama est censé tourner en boucle. Alors, j'espère que c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc le parti pris de cette exposition, c'était de construire un parcours qui permette de mieux saisir, l'histoire très méconnue du tatouage et de comprendre aussi un peu plus en détail l'état actuel du tatouage contemporain. Et pour cette raison, le parti pris qui était d'emblée assumé et que Stéphane Martin aussi, le président du musée, avait mis en avant, c'était d'évacuer, hein, ce sont les mots de Stéphane Martin, il s'est déjà exprimé là-dessus, d'évacuer le plus rapidement possible la question de l'archéologie et de l'ethnologie pour vraiment rentrer dans l'histoire du tatouage contemporain. C'est pour ça que la première partie de l'exposition est une sorte d'assemblage un petit peu de différents objets, de différentes photos et de différents outils également à tatouer, pris un petit peu ça et là dans les collections et du musée du Quai Branly, mais aussi du musée de Leiden et du muséum d'histoire naturelle. Et ensuite, dérouler en quelque sorte le fil, la trame historique et l'histoire des échanges et de la filiation du tatouage moderne avec les régions non européennes. Donc, lorsqu'on sort dans cette première partie historico-archéologique, on arrive tout de suite au début, à la fin du 19e, début du 20e, où on va parler plus en détail du tatouage dans une section qu'on a intitulée « La rue, l'armée, la prison ». Donc, tout le tatouage dans les milieux marginaux des États-Unis, d'Europe, mais également de Russie. Bon, ça, la Russie, c'est un petit peu plus tardif, mais ça, on a inclus ça dans la même section, puisque pour nous, ça représentait des régions importantes, des lieux importants, des espaces importants de conservation de la pratique du tatouage. Et les tatoueurs modernes font aussi, dans leur pratique, font aussi très souvent référence à cette période du tatouage qu'on voyait plus particulièrement au début du 20e et à la fin du 19e sur les bagnards, sur les marins, sur les prostituées, etc. La deuxième partie qui est également assez méconnue dans un certain sens, c'était une partie qui concernait tout ce qu'on appelait les sideshows, c'est-à-dire aux États-Unis et dans une moindre mesure en Europe, des cirques itinérants. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est une période très intéressante du tatouage qui a été également conservée et développée donc dans ces cirques itinérants où on présentait entre deux spectacles équestres et des présentations animalières, la femme à barbe, l'homme le plus tatoué du monde, la femme la plus tatouée du monde, etc. Ce qui est intéressant dans la question des sideshows, c'est que les tatoueurs, si vous voulez, le tatouage comme métier, comme profession, a d'abord été développé à l'intérieur de ces cirques itinérants, puisque souvent, dans ces cirques, les personnes qui se produisaient, les personnes tatouées qui se produisaient dans ces cirques, voyageaient avec des tatoueurs et donc faisaient évoluer leur performance et les dessins qui étaient placés sur le corps au fur et à mesure des différentes tournées, puisque les tatoueurs continuaient à tatouer les personnes qui faisaient partie du spectacle. Les tatoueurs eux-mêmes s'exhiber aussi comme curiosité. Et donc, ça constitue, si vous voulez, une phase inévitable de l'histoire du tatouage. Ensuite, et en lien direct avec cette pratique des cirques itinérants, des cabinets de curiosité, il y en avait tout un tas aux États-Unis entre la fin du 19e et le 20e siècle. C'était à peu près les mêmes endroits où on allait présenter, par exemple, la femme la plus tatouée du monde. Donc on a des performeurs très célèbres déjà à la fin du 19e siècle qui font des tournées mondiales sur ce thème. Donc là, vous en voyez un exemple ici. Dans ces lieux se produisaient également des expositions ethnographiques. Donc la question des exhibitions ethnographiques et la question de l'invention du sauvage et des zoos humains ayant déjà été traitées, on n'a pas trop mis l'accent là-dessus, puisque le musée avait consacré une exposition à ce sujet quelques années auparavant. Donc on a plutôt essayé de montrer l'importance de la pratique de tatouage professionnel à l'intérieur de ces réseaux de spectacles. Ce qui est très intéressant, c'est que ces personnages-là qui vont au départ promouvoir leur art donc, dans le cadre de ces cirques vont ensuite finalement ouvrir les premiers studios professionnels, en particulier à Londres et à New York, mais il y en a eu aussi d'autres dans d'autres villes américaines. Et donc il y a un lien direct, si vous voulez, entre ces cirques et l'installation du tatouage comme activité professionnelle à temps plein. Alors on a souvent tendance à penser que le tatouage a explosé dans les années 80 et dans les années 90. En réalité, si on se tourne sur la presse de la fin du 19e siècle, on a déjà, pas dans des proportions qui sont comparables à ce qu'on a aujourd'hui, mais on a déjà un grand nombre de tatoueurs très talentueux, assez célèbres, et qui ne tatouent pas uniquement des marins ou des prostituées ou des bagnards, mais aussi des esthètes, des dandys en quelque sorte, pour rebondir un petit peu sur la communication précédente, puisque moi j'ai personnellement retrouvé des coupures de journaux d'aristocrates anglais, officiers de marine, qui au fil de leurs différentes escales, font une véritable collection de tatouages en allant cibler les meilleurs tatoueurs de toutes les grandes villes où ils s'arrêtent. Et donc on a par exemple un aristocrate anglais qui est très peu connu, sur lequel la presse a consacré un certain nombre d'articles parce qu'il était allé au Japon se faire tatouer par un grand tatoueur japonais à la fin du 19e siècle. Puis il est allé à Samoa, il s'est fait également tatouer sur place. Et donc la presse a consacré quelques articles sur ce personnage-là qui était déjà, à la fin du 19e siècle, un collectionneur d'œuvres d'artistes tatoueurs. Ce qu'on a voulu également montrer dans la suite de l'exposition, c'est les liens importants, les correspondances, les échanges de techniques et les innovations aussi techniques du tatouage, puisque pour contrer un petit peu l'idée reçue selon laquelle le tatouage occidental explose à l'heure actuelle parce qu'on est dans l'ère de l'individu et que dans un monde postcolonial, eh bien, le souci de soi et la personnalisation par le tatouage est quelque chose qui est un média qui est privilégié. En réalité, nous, on a essayé de prendre un petit peu le contre-pied de cette... j'ose plus toucher le diaporama, j'ai peur de l'éteindre. On a essayé de prendre un petit peu le contre-pied de cette approche en montrant aussi que l'explosion actuelle du tatouage est également l'œuvre des tatoueurs eux-mêmes et a beaucoup à voir avec l'évolution de la profession. Et on peut même en repérer des points de détail dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, où à certains moments, on va avoir deux ou trois tatoueurs qui se rencontrent et les choses évoluent d'un coup. Hein, il n'y a pas de long processus sociétal qui amène les gens à se faire tatouer petit à petit. On a par exemple des correspondances et des contacts qui se font régulièrement entre des tatoueurs comme Sailor Jerry ou Ed Hardy, ou encore Ed Hardy et Félix Leu, qui vont, en quelques années, donner une légitimité au tatouage très rapide, notamment parce que quelqu'un comme Ed Hardy, je vais exprimer la chose différemment, on a l'arrivée sur la scène du tatouage professionnel de tatoueurs un peu visionnaires qui ont fait des études dans des écoles d'art graphique, notamment à l'Institut d'art de San Francisco, et qui vont avoir la volonté affirmée et écrite, c'est quelque chose qui est assez clair dans la biographie d'Ed Hardy, de faire évoluer le métier vers quelque chose d'un peu plus classe et d'un peu plus élaboré. Et donc pour ça, il va clairement faire des séjours au Japon, et c'est en particulier à partir des contacts que Ed Hardy va nouer avec des tatoueurs japonais que la pratique du tatouage va en quelque sorte sortir d'une pratique de mécanique de reproduction de flash, donc des petits dessins stéréotypés qu'on allait choisir avant lui lorsqu'on allait dans un studio de tatouage. Et en quelques années, on passe de cette pratique-là à Ed Hardy qui commence à éditer une revue spécialisée et qui se met à faire des tatouages customisés, c'est-à-dire qu'il fait des tatouages personnalisés sur des très grandes surfaces. Et il va également introduire l'arrière-plan dans le tatouage. Donc tout un ensemble de choses qu'il va emprunter à la pratique des maîtres japonais qui, entre parenthèses, hein, à l'époque où les États-Unis et l'Europe en sont encore à faire des tatouages très basiques en noir et bleu et à reproduire des motifs les uns après les autres, les Japonais sont déjà reconnus comme les plus grands maîtres du tatouage dans le monde, et en particulier pour les tatouages inspirés des ukiyo-e, hein, des estampes japonaises, et de toute l'imagerie que l'ukiyo-e avait déjà empruntée à l'histoire populaire chinoise, en particulier d'une histoire qui a rapport avec une centaine de voleurs, qui sont un petit peu des sortes de Robin des Bois chinois. Et donc tous ces personnages-là étaient tatoués. Donc le Japon, à la période de Edo, lorsque le tatouage s'y développe, va beaucoup emprunter à cette histoire mythique ou cette histoire populaire, et va illustrer cette histoire chinoise avec justement donc des samouraïs, des guerriers japonais, et on va essayer de reproduire les tatouages qui sont mentionnés dans cette histoire. Donc je sais que Ed Hardy s'est beaucoup intéressé à la pratique des Japonais et surtout à leur pratique de tatouage intégraux et à l'introduction dans le tatouage de l'arrière-plan, quelque chose qui n'existait pas avant qu'Ed Hardy en fait s'y mette. Donc c'est un ensemble de choses en fait qu'on a essayé de mettre en évidence. Juste une autre anecdote, puisque là j'en suis plutôt à vous donner des points là, un petit peu qui sont en dehors de l'histoire officielle de l'exposition. Des tatoueurs comme Félix Leu vont prendre contact avec Ed Hardy une dizaine d'années après qu'il ait commencé à devenir célèbre, et vont commencer aussi à échanger sur la question des machines. Et donc il y a des innovations technologiques, des phénomènes de bricolage qui vont se faire. Et donc on va s'échanger des procédés, on va s'échanger des techniques, on va s'échanger des trucs pour réaliser des pigments qui n'existaient pas avant. Et c'est pour ça que quand j'entends le tatouage est une mode, en réalité, moi personnellement je ne travaille pas sur la question de la mode, donc j'ai du mal vraiment à savoir ce qu'on entend par mode. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer comme étant un phénomène de mode, c'est-à-dire la réalisation d'une collection par un grand couturier et ensuite sa diffusion par des réseaux structurés, le tatouage s'est développé en fait sur un mode très informel. Et s'il y a bien mode, on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la communauté de pratique et de l'échange de savoir-faire de manière extrêmement, extrêmement informelle et extrêmement apprise sur le tas. Donc toujours pour illustrer cette question des échanges et des emprunts culturels, une deuxième phase importante qu'on a essayé d'illustrer dans cette exposition, c'est l'arrivée du tatouage tribal dans le tatouage moderne, qui est aussi non pas un phénomène progressif d'appropriation du tatouage tribal par les tatoueurs, mais en réalité, il y a un tatoueur qui était installé à San Francisco ou à Chicago à l'époque, j'ai du mal à me souvenir, qui va lui faire des voyages en Océanie et qui va introduire la pratique des aplats noirs et des motifs ethniques issus du Pacifique dans le tatouage américain. Et donc ce personnage, c'est Leo Zulueta. Donc on doit avoir une de ses œuvres dans le diaporama, si je retrouve ça. Donc si vous voulez, en l'espace de quelques années également, et ça, ça s'explique aussi parce que dans le milieu du tatouage, il y a une... Le milieu du tatouage, si vous voulez, fonctionne beaucoup par... c'est cette œuvre-là que vous voyez sur la droite. Alors, donc à partir des emprunts faits par ce tatoueur qui s'appelle Leo Zulueta au tatouage océanien, eh bien, les tatoueurs vont se mettre à copier. Donc il y a un phénomène comme ça dans le milieu du tatouage de copie, mais je pense que c'est pas spécifique au tatouage. Et donc... À chaque fois qu'il y a une innovation comme ça qui va être un petit peu rendue publique, eh bien, vous allez avoir des dizaines de tatoueurs qui vont se mettre à faire la même chose ou à essayer de faire la même chose. Mais si vous voulez, le moment initial où ces introductions sont faites, en fait, ne sont pas du tout, comme je vous le disais, je suis désolé si j'insiste un peu là-dessus, ne sont pas du tout des choses progressives qui se font... au niveau sociétal, mais c'est vraiment des innovations introduites par les professionnels eux-mêmes, de sorte que si on veut avoir une explication un petit peu plus réaliste de la raison, parce qu'on me pose tout le temps la question, donc, de la raison pour laquelle le tatouage est si populaire aujourd'hui. C'est aussi en grande partie parce que la profession a évolué et que les tatoueurs, en quelque sorte, ont diversifié leur offre de manière assez incroyable si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, et que donc l'offre qui est aujourd'hui possible et proposée par les tatoueurs, en fait, est quasiment capable de satisfaire tous les projets de tatouage. Si vous voulez avoir une reproduction d'un Kandinsky, ben c'est quasiment aujourd'hui faisable. Donc, c'est aussi, en grande partie, à cause de ces innovations techniques que le tatouage peut être approprié par tous les types de populations, des plus marginales aux plus esthètes, ou aux plus... Oui, voilà, vous m'avez compris, quoi. Donc, j'en étais où ? Donc, comme je disais, je n'ai pas vraiment préparé. C'est, mon exposé est beaucoup moins brodé que les précédents, donc je suis désolé si ça a l'air un petit peu désordonné. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, pour comprendre un petit peu la manière dont on a fait cette exposition, on a essayé d'éviter, c'est une critique qu'on nous a fait rarement, mais qu'on nous a faite quand même, le côté peu didactique. C'est pas une exposition où on va prendre une leçon d'histoire du tatouage, mais en fait, on a essayé de transporter le public, d'éprouver en fait le long du parcours cette question de la chronologie et des échanges sans réellement l'écrire noir sur blanc, même si c'est mentionné ça et là, mais on n'a pas fait un grand chapeau pour expliquer que l'exposition est une exposition chronologique qui va dérouler un petit peu l'histoire des échanges. Simplement, en se baladant dans ce parcours, on traverse différents espaces, différentes régions, mais qui ne sont pas du tout organisés, comme je vous le disais, de manière isolée. Mais voilà, on a essayé vraiment de montrer comment à chaque étape le tatouage va s'enrichir d'une pratique nouvelle, d'une technologie nouvelle ou d'une iconographie nouvelle. Et c'est pour ça que finalement on a en quelque sorte limité les espaces principaux de l'exposition à la région du Japon, des États-Unis, de l'Océanie, de l'Amérique du Sud et de la Chine. Et la dernière partie, c'est une partie qui est plus euro-américaine. Et donc, l'Afrique est forcément absente. Et d'autres régions où on pratiquait également le tatouage sont absentes. La raison de ce phénomène, c'est qu'on a voulu privilégier les régions du monde où on compte à l'heure actuelle encore des tatoueurs contemporains, qui ont une importance dans le développement actuel et l'histoire du tatouage. Et c'est pour ça donc que l'Afrique du Nord n'est pas présente, même si on est tout à fait au courant que les pratiques de tatouage et de scarification en Afrique sont extrêmement variées. Simplement, il n'y a pas de tatoueurs à l'heure actuelle en Afrique ou en Afrique du Nord qui soit une des grandes figures présentes dans les rassemblements de tatouages, dans les conventions. Et donc, on a voulu concentrer en fait l'exposition sur le milieu du tatouage. Et je sais qu'Anne et Julien ce que Anne et Julien voulaient vraiment mettre en avant, c'était justement le passage au statut d'artiste des tatoueurs, même si bon, c'est quelque chose de très discutable. C'était vraiment le parti pris qui a été fait. C'est pour ça qu'on a commandé aux différents tatoueurs ces œuvres, en fait, ces œuvres uniques. Donc on leur a demandé de travailler sur deux supports différents. Donc d'une part, des moulages, de travailler sur des moulages en silicone. Alors j'essaie de vous trouver un exemple. Donc on a fait réaliser exclusivement pour l'exposition. Et même le support en fait a été développé exclusivement pour l'exposition par une boîte qui s'occupe d'effets spéciaux pour le cinéma à la base. Donc on a envoyé 13 ce qu'on appelait des volumes. On a envoyé 13 volumes à ce qu'on considérait être les 13 plus importants tatoueurs encore vivants à l'heure actuelle. Et un nombre plus important de canevas, à peu près de 90 cm sur 60, à une sélection un peu plus large donc d'autres tatoueurs contemporains, pour qu'ils réalisent en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler des projets de tatouage. Donc certains n'ont pas vraiment bien compris en fait l'exercice. On leur a dit, vous essayez de créer un bodysuit, hein, vous essayez de penser à un tatouage intégral ou quasiment intégral sur un corps en taille réelle. Donc là, on a eu des résultats assez intéressants. Et d'autres tatoueurs, en fait, qui se sont plutôt fait plaisir et qui ont plutôt fait de la peinture, comme ce... ici, si, voilà. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, là, c'est un tatoueur des îles Tonga qui a plutôt fait une toile sans vraiment penser à un projet de tatouage intégral. On a un autre exemple aussi ici qui a failli passer, qui a pas failli passer le test de Stéphane Martin. Donc c'est par exemple celui-là, hein, que vous voyez ici à gauche. On a failli carrément le jeter à la poubelle parce que Stéphane Martin le trouvait absolument hideux et qui ne correspondait pas du tout à l'exercice, hein, qu'on avait un petit peu imposé au tatoueur. Donc voilà, c'était vraiment ce qu'on voulait montrer. En gros, pour résumer, le cœur de l'exposition, ce sont ces œuvres, en fait, hein, des artistes tatoueurs. Et on a autour construit un discours sur le tatouage avec les collections du musée du Quai Branly, certaines collections du Muséum d'histoire naturelle, des collectionneurs privés, et le peu de musées où nous avions les moyens d'emprunter, c'est-à-dire, en gros, le musée de Leiden en Hollande, puisqu'on a eu des grosses contraintes budgétaires, et ça, bon, c'est parti aussi de l'histoire non officielle de l'expo, qui était qu'on ne pouvait pas emprunter dans les pays où il y avait le plus de collections sur le tatouage, c'est-à-dire on ne pouvait pas emprunter en Angleterre, on ne pouvait pas emprunter en Allemagne, et on ne pouvait pas non plus emprunter aux États-Unis, et encore moins au Japon ou en Russie. Donc on a dû aussi construire cette expo avec cette contrainte énorme qui était de ne pas pouvoir emprunter des objets là où ils sont en plus grand nombre et là où ils sont dans le plus d'intérêt historique. Puisque aux États-Unis, il y a les principales collections relatives au tatouage sont dans des collections privées. Ce sont des tatoueurs qui les possèdent. Et c'était extrêmement compliqué d'emprunter. Donc les quelques œuvres américaines qu'on a pu présenter sont des œuvres d'Ed Hardy qu'il a envoyées par la poste, hein, par DHL, sans passer par le réseau muséal classique. Et donc on a quand même pris des risques assez importants aussi sur certains objets parce qu'on voulait absolument les avoir et le musée ne pouvait pas payer pour ça. Donc on a dû un petit peu bricoler aussi certains aspects de l'expo pour avoir des objets qui nous pensaient importants. Et je ne sais pas trop où j'en suis, mais juste un dernier point. Ce qu'on ne voulait pas montrer aussi dans cette expo, c'était... alors il y a des peaux tatouées qui sont exhibées. Mais il y a certains cas de peaux tatouées qu'on ne voulait absolument pas montrer, notamment celles qui sont issues des collections de peaux retirées sur les gens morts dans les camps de concentration, puisqu'il y a un commerce assez sordide qui existe, hein, sur les peaux tatouées qu'on a retirées sur les gens qui étaient internés. Donc on a fait des abat-jours, des portefeuilles, etc. Donc ça, on ne voulait absolument pas montrer ce type d'objet. Et... d'autres objets notamment pour lesquels moi je voulais pas trop je voulais éviter de montrer, c'était certains cas de préparation de peau qui avaient été notamment retirés sur des indigènes en exhibition en Europe. Alors il y a un cas sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui est intéressant, c'était en 1889, il y a une troupe de Samoans tatoués qui a été embauchée par un recruteur américain qui travaillait avant chez Barnum et qui a organisé une tournée mondiale donc de 9 Samoans. Donc ces gens-là sont tous un petit peu morts les uns après les autres, hein, au long du voyage, parce qu'ils ont eu la tuberculose, la rougeole, etc. Et notamment à Bruxelles, il y en a un qui est mort de la rougeole et qui avait déjà été examiné par un anthropologue, membre de la Société d'anthropologie de Bruxelles. Et donc ce monsieur a eu la bonne idée, entre guillemets, hein, de faire dépecer, hein, le corps de ce Samoan mort et de monter sa peau sur un châssis pour qu'elle entre dans les collections du musée de la médecine. Donc cet objet, il a été exhibé à Bruxelles en 2004. Moi, j'en connaissais son existence. Je suis même le seul à quasiment avoir retracé tout l'itinéraire de ce groupe. Et donc pour des raisons aussi, voilà, des raisons éthiques, on va dire, hein, c'était ce type d'objet qu'on voulait aussi éviter de montrer pour vraiment ne pas tomber dans quelque chose de vraiment trop sordide, qui peut en plus avoir des répercussions juridiques, puisque le droit, à l'heure actuelle, le droit de la personne, permet aux communautés d'origine de réclamer ce type de pièces. À partir du moment où on sait d'où elles viennent, Il y a une jurisprudence qui fait que si le village d'origine réclame cette peau qui est conservée à Bruxelles, le musée de Bruxelles sera obligé de la restituer. Donc voilà, pour tout un tas de raisons, ce sont des objets qu'on a aussi voulu éviter parce que ça me paraissait vraiment pas terrible du point de vue éthique. Donc je vais m'arrêter là parce que bon, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà vu l'exposition et puis peut-être que ce serait bien si on a, c'est aussi bien si on a un peu de temps pour pour des questions. Un très merci de votre attention.
Sur la scénographie, en fait, j'ai vu l'expo, j'étais assez étonnée parce que finalement, alors peut-être c'est l'effet monde, elle ne donnait pas la possibilité vraiment de va-et-vient et ça m'a beaucoup étonnée. Et j'ai pas non plus tellement compris, alors, j'ai compris que tant qu'on est non, ça, oui, en tant qu'ethnologue, mais c'est parti pris qui est branlé aussi depuis le début, même si une politique qui fait que maintenant ils mettent aussi en avant l'ethnologie, voilà, de recherche, et sur leur collection aussi. Mais je trouve que comme on n'avait pas cette possibilité aussi de va-et-vient qui avait tellement de monde, peut-être cette scénographie empêchait aussi de bien comprendre ce que vous venez de nous dire sur la circulation. Alors c'est amusant parce que vous avez essayé de tenter d'expliquer de la circulation, mais l'exposition telle qu'elle était présentée ne permettait pas aux visiteurs de circuler. Donc c'est voilà, et donc peut-être de mieux comprendre cet effet. Cet effet, j'ai presque plus compris par culture, c'est-à-dire il y a un moment où on arrive après le pont historique d'une certaine manière, avec ce panneau où il y a toutes les dates voilà, de culture et finalement d'approches différentes avec des témoignages plus contemporains, etc., de ce qui se passe dans différentes zones géographiques en fait, du monde. Donc voilà. Et avec cet espace historique au départ, voilà, je me suis posé la question de la scénographie, c'est-à-dire c'était comme un labyrinthe. Et c'est vrai que souvent on pense aussi les scénographies en fonction du propos, c'est-à-dire qu'elles reflètent aussi le discours de l'exposition. Et là, voilà, j'avais un peu de mal à me situer.
Oui, effectivement, le problème de la circulation au musée, c'est pas un problème qui est tout neuf. Hein. La question se pose aussi dans les collections permanentes, où les galeries sont toujours trop étroites. Et dès que vous êtes plus de 3 ou 4, moi, j'ai conduit tout un tas de groupes en visite dans l'exposition, et c'est un problème récurrent en fait. Même lorsqu'il y a peu de monde, dès que vous êtes plus de 5, ça devient très difficile de circuler.
Je me suis demandé à un moment donné, est-ce qu'il n'allait pas mieux mettre moins, et pour éviter cette scénographie circulaire, on va dire, parce qu'il y a aussi énormément de choses dans cette
ah, c'est aussi beaucoup lié à l'espace, en fait. Cet espace-là, sur la mezzanine, et si vous voulez, une espèce de forme de U. On est un petit peu obligé de faire ce cheminement en U. Et là, je suis d'accord avec vous. Hein, la circulation, à chaque fois que j'ai accompagné des groupes, c'était jamais évident. J'en perdais toujours la moitié en cours de route parce qu'ils décrochaient ou ils étaient attirés par un autre objet. Là-dessus, c'est un vrai problème. Et à ma décharge, je n'ai pas eu du tout mon mot à dire sur la scénographie, comme vous en doutez. Ouais.
L'espace, voilà. Donc, je me suis posé la question aussi de cette surcharge. Parce que, voilà, il était question du corps, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de choses qu'on finissait par plus voir le corps.
Voilà. Oui,
Donc, après, c'est des choix, je pense aussi, scénographiques et puis des commissaires. Quoi.
Effectivement, la question du corps. C'était pas quelque chose de central dans le sens où on avait eu juste avant une exposition là-dessus Enfin, l'exposition Qu'est-ce qu'un corps organisée par David, enfin, conçue par notamment par David Le Breton, avait déjà un petit peu traité la question. Donc, le parti pris des commissaires généraux, c'était vraiment de montrer, si vous voulez, de montrer la pratique contemporaine en l'illustrant avec des objets qui ont trait à son histoire. Et c'est malheureux, en fait, qu'en tant que spectateur, vous n'ayez pas saisi qu'on avait un propos chronologique et pas culturaliste, parce qu'en fait, c'était vraiment ça qu'on voulait. C'est comme ça qu'on voulait amener le spectateur à comprendre l'histoire du tatouage d'un point de vue chronologique. Quoi. Et c'est vrai que oui.
Comme deux volets pour moi, un volet historique, au départ, avec les
noms. Ouais.
Et puis après, l'autre volet, presque par
pays. Alors, pas oui, oui. Ellie, si vous regardez la section, la partie consacrée aux États-Unis, en fait, on a des échanges épistolaires entre différents tatoueurs. On a aussi des choses prêtées par Ed Hardy qui montrent comment il a emprunté sa façon de tatouer au Japon. Il y a des objets incroyables qu'on aurait aimé montrer, c'est-à-dire les échanges de correspondance entre Sailor Jerry et les tatoueurs japonais dans les années 50. Sauf que impossible d'avoir accès à ces choses-là. Dans les sections Océanie, moi, par exemple, j'ai beaucoup contribué au montage de la section Océanie. C'est quasiment ce que j'ai fait essentiellement. C'est l'Océanie et la première partie, où là, on a essayé d'introduire des vidéos pour illustrer aussi le côté un peu moderne, le fait d'être un tatoueur aux îles Samoa et de travailler dans son village. Et deux semaines après, on est à Bruxelles et on est obligé de s'adapter. On n'est plus dans une pratique rituelle, on est dans une pratique du tout venant commercial où on tatoue quasiment à la chaîne les gens qui viennent. C'est vrai que ce n'est pas été possible à tous les endroits de l'expo. Je reconnais qu'il y a... De ce point de vue-là, ouais. Non, évidemment, mais il y a aussi une autre chose qui était compliquée, c'était tous ces canevas, toutes ces toiles peintes par les artistes. À un moment donné, on en avait tellement qu'on ne savait plus où les mettre. Donc on a, il a été décidé, hein, c'est pas du tout moi qui ai décidé ça, j'avais aucun pouvoir là-dessus, de les installer donc dans le couloir où elles sont pas vraiment mises en valeur non plus, quoi. Non, là, il y a des choses qui sont à revoir. Il y a aussi, dans la première partie historico-archéologique, les commissaires généraux ont voulu mettre des crânes. Bon, moi, je leur avais dit, bon, les crânes, a priori, je vois pas le rapport, mais bon, si vous voulez, mais bon, a priori, ça va poser problème. Et effectivement, à chaque fois que j'ai accompagné des groupes, j'ai eu la question, mais qu'est-ce que ces crânes viennent faire dans l'expo? Et là, bon... Oui, je sais, mais voilà. On va dire que c'est décoratif. Voilà, il y a des choses à corriger, effectivement. J'espère que, enfin, là, l'expo a été revendue au musée de Toronto, donc elle va tourner l'année prochaine pendant 6 mois à Toronto. Donc elle va être réorganisée par des commissaires locaux. Et on peut espérer que justement, ils vont augmenter, par exemple, tout ce qui concerne l'Amérique du Nord, avec les collections muséales américaines il y a des très belles choses sur le tatouage amérindien dans les collections américaines. Donc on peut espérer que de ce point de vue-là, ça prenne une autre ampleur.
Et en même temps, je trouve que ce qui est intéressant dans cette exposition par rapport au corps, c'est qu'on voit quand même les traditions. Finalement, on voit quand même les traditions culturelles. Il y a peut-être des échanges, mais elles sont... Enfin, c'est pas si brouillé que ça, c'est-à-dire que c'est pas une globalisation des signes. Il y a quand même une tradition et qu'on repère ce qu'il est.
Oui, tout à fait d'accord.
C'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire de comprendre les signes et de voir que chaque culture a son langage et retraduit sur les corps. Et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant.
Oui, c'est une des choses que j'ai pas mentionné dans la présentation. C'est le, on a voulu aussi montrer bon, qu'il y avait des, en quelque sorte des mouvements d'orientalisme, de primitivisme dans le tatouage, hein, donc des emprunts hein, au Japon, des emprunts en Océanie, avec une volonté vraiment, par exemple, les tatoueurs qui sont mis à faire qui sont mis à reproduire des tatouages océaniens, avec au tout début, dans les années, fin des années 80, une vraie volonté de coller au plus près hein, d'une idée un petit peu fantasmée de ce que c'est un tatouage primitif. Mais ce qu'on voulait aussi montrer, c'est le fait qu'il y a des écoles graphiques, même si ce n'est pas des écoles structurées, si c'est des choses informelles qui dépendent vraiment de rapports entre professionnels. Il y a effectivement oui, des écoles graphiques qui sont mises en évidence, enfin, qu'on essaie de mettre en évidence par le biais de cette exposition. Et la question de la technique aussi, moi j'ai beaucoup, comme je suis très un petit peu obsédé par l'anthropologie des techniques, j'ai essayé de faire rentrer beaucoup d'outils à tatouer, mais parce que ça a une vraie influence sur c'est comme lorsqu'on peint un tableau, hein, la question de la technique est souvent relayée. Il y a une coupure épistémologique entre l'art et la technologie, mais en réalité, si on s'intéresse au tatouage, c'est une grave erreur de s'intéresser qu'au résultat fini, parce que la sensorimotricité du rapport avec une machine ou du rapport avec des outils manuels ou des aiguilles est ultra déterminante du résultat et même de la façon de concevoir du processus créatif du motif, quoi. Ah oui, bon alors ça c'est normal en quelque sorte, oui et non, oui, en fait, je vais vous dire pourquoi, parce que Wim Delvoye, pour les commissaires généraux, considère que Wim Delvoye est un imposteur et qu'il n'est pas un tatoueur. Donc ils ont décidé d'écarter, même si moi, de mon point de vue, Wim Delvoye, il a un propos extrêmement intéressant sur il pose des questions super intéressantes sur le statut de ce que c'est une image tatouée, des questions très intéressantes sur la question de la propriété intellectuelle. Donc par ce qu'il fait, il a tendance à pousser un petit peu les limites et à poser vraiment des très bonnes questions très cruciales à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'on a considéré que Wim Delvoye n'était pas un personnage important du milieu du tatouage. Et pour René Julien, c'est non seulement quelqu'un qui n'est pas important dans le milieu du tatouage, mais c'est surtout quelqu'un qui est un petit peu un pirate, hein, qui est allé utiliser ce média-là pour en faire autre chose, quoi. Donc on a discuté la question de Wim Delvoye, effectivement, mais il a été assez automatiquement écarté de l'exposition, quoi. Parce que je pense que ça allait mal se passer si on essayait de l'exposer.